En France, c'était le groupe Action Directe de 1979 à 1987. En Allemagne de l'Ouest, la fraction Armée Rouge, aussi appelée la Banda Bader de 1978 à 98. Des groupes terroristes d'extrême gauche qui ont fait régulièrement la une de l'actualité pour les assassinats politiques que ses membres ont commis. Parmi ses membres, des femmes, rares certes, mais emblématiques. Parce qu'elles n'étaient pas seulement des terroristes, elles étaient aussi des femmes terroristes. Elles ont pris les armes, mais dans quel but précis? Y a-t-il des revendications féministes derrière cette violence? Leurs méthodes sont-elles différentes de celles des hommes? En tout cas, les mots pour désigner ces femmes le sont, et derrière ces mots, c'est tout un imaginaire de la femme terroriste qui se met en place. C'est ce que nous allons évoquer pendant une heure. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour et bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invitée du jour est Fanny Bunion. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à Rennes 2, spécialisée dans les études sur le genre, et vous répondrez aujourd'hui pendant une heure aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour et désolée pour la voix, c'est de cette saison. Je suis très enrhumée.
On vous pardonne. Bonjour à vous, Christian Lebar.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, notre partenaire sur cette émission. Colette, c'est à vous de poser la première question.
Elle s'appelle Ulrike Meinhof, Gudrun Henslin, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron. Dans les années 1970 et 1980, elles voulaient changer le monde. Elles ont pris les armes pour faire la révolution et on les a traitées de folles, de perverses, de monstres et de femmes perdues. Fanny Bunion, vous êtes historienne. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à celles qu'on a nommées aussi les Amazones de la terreur? C'est le titre d'un livre que vous avez publié aux éditions Payot, Les Amazones de la terreur sur la violence politique des femmes de la fraction Armée Rouge, Action Directe.
Alors les Amazones de la terreur, c'est le surnom effectivement qui leur a été donné dans les médias. Ces femmes, elles s'inscrivent dans des imaginaires plus larges sur la déviance au féminin, la question de l'engagement. Et moi, je me suis justement intéressée à ces formes d'engagement féminin en marge de la légalité. Alors là, on est très très en marge, hein, puisqu'effectivement, elles vont faire le choix de la violence comme d'un outil politique, une violence qui va jusqu'à être meurtrière. Hein. Elles vont revendiquer des assassinats au sein d'organisations qu'on appelait terroristes révolutionnaires, d'organisations en tout cas qui pratiquent ce qu'on appelle la lutte armée.
Christian Lebar.
Alors évidemment, ce qui est complètement passionnant dans cet ouvrage, les Amazones de la terreur, c'est que donc à partir d'un travail qui porte pour l'essentiel sur le cadrage médiatique, sur la façon dont les médias rendent compte, font le portrait de ces femmes et rendent compte de leur procès, on voit se télescoper deux imaginaires qui sont considérés comme non compatibles, c'est-à-dire un imaginaire du genre, hein, la féminité, et un imaginaire de l'ultra-violence, le terrorisme. Et ce que vous montrez très bien, et j'aimerais bien que vous y reveniez un petit peu, c'est que, voilà, comme une espèce de scandale ontologique qu'il y a à exercer la violence terroriste quand on est une femme, beaucoup plus que si c'était, au fond, des hommes.
Ce qui fait consensus, c'est que c'est une énigme sociale. Effectivement, on ne comprend pas, que ce soit du côté des magistrats, du côté des policiers, du côté des journalistes, quel que soit leur bord éditorial, hein, ce que des femmes viennent faire dans cette histoire. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser, à poser la question du sexe, du genre des actrices et des acteurs de la violence politique, en fait, on pense aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a un impensé masculin, on ne dit jamais homme terroriste, il n'y a pas besoin de spécifier. Par contre, on parle de femmes terroristes. C'est comme si le terme terrorisme était une catégorie, un impensé masculin, et que le fait que des femmes y soient mêlées bousculait effectivement la représentation ordinaire des fonctions sociales attribuées aux femmes et aux hommes. Donc effectivement, on a des imaginaires qui qui se télescope. Alors on va convoquer toute une série d'explications pour essayer de comprendre. On va faire appel notamment à des psychiatres. On a des articles qui posent la question « Femmes et terroristes, les psychiatres expliquent ». On n'a pas d'équivalent pour les hommes. Hein. On ne se pose pas la question de comprendre cette forme de transgression ultime qui est à la fois une forme d'engagement politique, mais surtout une forme d'engagement violent. Et on a une tension extrêmement forte entre ces normes pénales qui sont transgressées, franchies allègrement par les militantes de ces organisations, mais peut-être plus encore la question des normes de genre, parce qu'elles apparaissent comme des figures monstrueuses, perverses, folles, vous l'avez dit, ou sous influence. Enfin, en tout cas, on a toute une série de registres qui vont être mobilisés. Et du côté du traitement médiatique et même de ce qui se dit dans l'arène pénale du côté des hommes, c'est beaucoup plus pauvre, finalement.
Alors, on essaie de se rassurer comme on peut face, quand on est journaliste face à des situations de ce type. Et par exemple, c'est très passionnant de voir que dans un premier temps, on dit, il est probable que ces femmes étaient amoureuses, qu'elles se sont laissées entraîner. Les vrais terroristes, ce sont les hommes, et elles n'ont été que les complices dans le cadre d'une division, on pourrait parler de division sexuelle du travail terroriste, en référence à un imaginaire. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de l'assassinat de Georges Besse, ce sont les femmes qui ont tué. Et elle rit au procès. Donc il y a toute une série d'éléments d'enquête qui déjouent ces lectures classiques.
Lorsque Joël Aubron et Nathalie Ménigon comparaissent, elles comparaissent avec deux autres hommes, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani, pour l'assassinat de Georges Besse, donc le patron de Renault, la firme automobile, qui a été assassiné un soir de novembre 1986 en pleine rue, à Paris, dans le quartier de la gare Montparnasse, alors qu'il rentrait chez lui, il était 8h du soir, et ce qui surprend les témoins, c'est qu'on a vu deux femmes l'abattre. Elles ont agi à visage découvert et elles l'ont abattu dans cette espèce de duo, elles vont être surnommées ainsi, hein, ce duo d'Amazones. Et tout de suite, on pense, s'il y a des femmes, c'est Action Directe. S'il y a des femmes, c'est forcément une organisation révolutionnaire qui se prétend pratiquer la lutte armée au nom d'un idéal de la révolution anticapitaliste, anti-impérialiste. Donc quand il y a des femmes, c'est forcément un groupe politique, et on pense tout de suite à Action Directe. Donc on les identifie, on diffuse des avis de recherche. Le ministère de l'Intérieur placarde effectivement des affiches avec leurs portraits où elles sont toutes les deux recherchées pour attentat terroriste. Mais au final, lorsqu'elles vont être jugées et condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, avec les deux hommes qui figurent avec elles dans le box, ce sont elles qui concentrent effectivement les regards. Et c'est d'ailleurs ce que dira l'avocat général dans son réquisitoire. Il va dire le plus horrible, le plus choquant, c'est que les tueurs soient des tueuses. C'est-à-dire que le sexe de celles qui ont commis cet assassinat rajoute du drame, de la consternation, de l'incompréhension, du choc, effectivement, c'est le terme utilisé, alors que ce n'est pas une catégorie pénale, à proprement parler, mais ça interpelle violemment.
Et interpelle, en outre, encore plus, le fait qu'elles sont jeunes, qu'elles sont belles, et qu'elles sont, l'une d'entre elles, d'origine bourgeoise, avec un CV un peu, qui n'a rien de marginal ou...
Joël Aubron apparaît comme une espèce d'accident culturel, parce qu'effectivement, elle est issue d'un milieu aisé. Elle est née, elle a grandi à Neuilly-sur-Seine. Elle a été éduquée dans des écoles catholiques privées. Une famille, qui lui offre une vie matérielle confortable, qui possède un château, un grand-père administrateur chez Péchinet. Donc, on se dit, comment est-ce possible qu'une femme, une jeune femme qui appartient à cet environnement social favorisé, fasse un choix, quelque sorte contre-nature, à la fois au regard de son sexe, mais aussi au regard de son appartenance de classe, pour assassiner, viser le milieu auquel elle appartient. Alors, ce n'est pas propre à la France, on le retrouve aussi dans les autres organisations révolutionnaires, et notamment en Allemagne, où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de transfuge de la cause, qui en plus est belle, qui en plus est séduisante, qui va être mise en scène aussi dans les médias sur un registre un peu érotico-gauchiste ou érotico-révolutionnaire, comme on les appelle, alors que Nathalie Ménigon, elle vient d'un milieu ouvrier, populaire, et donc on lit son engagement comme quelque chose de, où il y a une forme de logique, en tout cas du point de vue de l'appartenance de classe. Donc on essaye de comprendre et ça semble effectivement impossible. Donc ce sont des femmes jeunes, jolies, ordinaires, ce ne sont pas des figures monstrueuses qui porteraient la gueule du crime en quelque sorte, mais de toute façon qui n'existent pas. Mais donc ça paraît comme encore plus inquiétant puisqu'elles ont l'air tout à fait ordinaires.
Jacques Chirac, le Premier ministre, est arrivé sur les lieux très rapidement en compagnie de Robert Pendreau, le ministre chargé de la Sécurité publique. Ils sont allés saluer la famille de M. Besse. Qui peut avoir signé cet attentat pour l'instant non revendiqué? Selon les enquêteurs, très certainement Action Directe, peut-être même avec l'aide de la fraction armée rouge allemande. Les policiers affirment qu'ils s'attendaient à une action terroriste. Une haute personnalité s'était même vu attribuer ces derniers jours une protection rapprochée. Les autorités semblent donc avoir été surprises par la cible choisie par les terroristes.
Les terroristes, ça fait peur parce que ça commet des attentats, des assassinats. Mais comme vous le dites très bien, ça étonne, et particulièrement quand ce sont des femmes. Le fait que vous avez travaillé, bon, on y reviendra aussi, à partir d'articles de 6 journaux de tendances très, très différentes, Figaro, Paris Match, France Soir, Libé, Le Monde,
L'Humanité.
Et aussi, quelle différence de traitement font ces journaux, parce qu'ils n'ont pas un traitement uniforme. Et aussi, à cette période-là, dans les salles de rédaction, il y avait très peu de femmes. Mmh. 20% en 75 dans la presse quotidienne nationale. Maintenant, elles sont 46%. Et est-ce que ça change les choses, la manière de voir le monde, de le décrire, et les femmes, évidemment?
Alors, effectivement, dans cette étude, j'ai mobilisé un corpus de sources qui balaye en quelque sorte le paysage médiatique, qui n'ont pas vocation à l'exclusivité, mais en tout cas qui essayent de couvrir un spectre plus large. J'ai aussi utilisé Minute de manière plus ponctuelle. Le journal qui opère le traitement le plus neutre du point de vue du genre, c'est le journal L'Humanité. Qui se situe sur un autre registre, qui par tous ces journaux partagent le principe d'une condamnation, alors avec des degrés, notamment dans le cas de Libération ou dans Libération dans ses premières années, notamment entre 1974 et 1977 à l'égard de la fraction armée rouge, peut mobiliser assez régulièrement des formes de sympathie parce que ça se passe ailleurs, parce qu'il y a cette espèce d'idéal révolutionnaire avant que Libération ne glisse vers ce qu'on va appeler plutôt une forme de gauchisme culturel. Mais le journal le plus neutre, c'est L'Humanité.
Qu'est-ce que vous appelez neutre, là ?
Du point de vue du genre, c'est-à-dire que ne se focalise pas sur le sexe. D'accord. Des auteurs, ne mobilise pas comme le Figaro, femmes et terroristes, les psychiatres expliquent, ne mobilise pas comme le journal Le Monde des imaginaires autour de la figure de l'ogresse ou de la sorcière machiavélique qui, autour d'une méprise phonétique en 1987, va susciter un emballement autour du devenir de la serviette en cuir de Georges Bess.
Oh là. Vous nous racontez ça parce qu'autrement qu'on n'est pas au courant. Là, ouais.
Alors je vous raconte effectivement. Lorsque Georges Bess est assassiné en novembre 1986, sa serviette en cuir est dérobée. Et lorsque Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, Jean-Marc Ruan vont être arrêtés en février 1987, ils vont être repérés dans une ferme de Sologne où ils vivent plus ou moins au grand jour, enfin en tout cas en se faisant appeler Robert et Nadine, pas du tout de manière clandestine, eh bien on va retrouver toute une série d'objets, de tracts, de documentation dans leur planque, dans leur ferme de Sologne, et on va retrouver la serviette en cuir de Georges Bess, mais qui a été transformée. Et la presse s'emballe en disant que Nathalie Ménigon, qui affectionne beaucoup les animaux, et notamment les hamsters, qui a aussi des chats, etc., elle aurait donné à manger au hamster qu'elle affectionne tant des morceaux de la serviette en cuir de Georges Bess. Donc on est là sur un imaginaire absolument monstrueux, hein, déshumanisé, de fantasme absolu, parce que si on s'arrête 5 minutes sur le régime alimentaire des hamsters, le cuir n'en fait pas spécialement partie. Par ailleurs, ronger du cuir, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. En fait, il va y avoir une méprise phonétique, c'est-à-dire que la serviette en cuir de Georges Bess a effectivement été transformée, mais pas pour donner à manger à des hamsters, mais découpée pour fabriquer un holster juste, c'est-à-dire un étui pour arme à feu. Alors, bien évidemment, il y a une dimension aussi symbolique, hein, dans la transformation du cartable d'un grand patron qui devient l'outil dans lequel on va installer un revolver pour mener la cause révolutionnaire à son terme. Mais en tout cas, on n'est pas sur le même registre et donc on s'emballe et ça résonne avec ces imaginaires de femmes monstrueuses, dénuées de tout sentiment, quand par ailleurs elles aiment les animaux. Ça rappelle la sorcière avec ses chats, etc. Donc on nourrit, on s'inscrit dans des imaginaires de ces figures de femmes un peu monstrueuses.
La référence aussi à Bonnie and Clyde est intéressante.
Alors on a aussi beaucoup de références à des figures de couples mythiques ou mythologiques criminels. Donc on a effectivement autour de couples qui existent, j'ai envie de dire, à la scène comme à la ville, comme c'est le cas pour... Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, donc qui sont comparés aux Bonnie and Clyde, enfin qui sont désignés comme les Bonnie and Clyde français, donc allusion à ce couple criminel de la Grande Dépression américaine des années 30, qui commettent ensemble des forfaits, donc avec cette idée que la passion amoureuse alimente aussi une forme d'engagement et fait oublier toute limite du vivre ensemble en quelque sorte, l'idée qu'il y a un entraînement de ce côté-là, mais qui tend à mettre les femmes du côté de la passion, des sentiments. Alors, ça peut aussi correspondre à une réalité. Nous sommes des individus, les individus ont des émotions, des sentiments, mais cette histoire de sentiments, elle est toujours pensée au féminin. Les hommes sont toujours présentés du côté de la rationalité, hein, de l'engagement, pensée, intellectuel, froid en quelque sorte, et les femmes du côté des sentiments, de la passion, de quelque chose qui les submerge, qui leur échappe, indépendamment de ce qu'elles peuvent dire. C'est ça qui est assez remarquable, c'est qu'on ne peut pas englober ces femmes dans une seule et même catégorie, mais elles sont renvoyées à cette dimension-là de manière un peu globale.
Vous pouvez justement nous rappeler, nous évoquer ce que ces femmes ont dit de leur combat, de leur engagement.
Alors, elles ont pu s'exprimer par des canaux différents. Je prends par exemple le cas de Ulrike Meinhof, qui, avant de rejoindre, participer à la fondation de la fraction Armée Rouge en 1970, est une journaliste.
Vous rappelez, s'il vous plaît, dans quel pays, quelle date
Fraction Armée Rouge ? Oui, Fraction Armée Rouge en Allemagne de l'Ouest, organisation qui va être active entre 1970 et 1998, qui va brasser plusieurs générations de militants clandestins et pour lesquels plusieurs dizaines de personnes ont été condamnées. Et Ulrike Meinhof appartient à ce qu'on appelle cette fameuse première génération. Et donc, avant de rejoindre cette organisation, elle est journaliste reconnue, éditorialiste dans une revue de gauche critique qui s'appelle Concrète. Elle est féministe par ailleurs et son premier engagement, c'est le pacifisme. Et donc ça peut sembler un peu paradoxal de faire le choix de la lutte armée après avoir eu un engagement pacifiste, mais elle explique qu'elle a publié toute une série de textes dans cette revue Concrète et puis des ouvrages qui ont aussi ensuite été publiés, traduits en français par les Éditions des Femmes, qui est une maison d'édition féministe. Elle explique que après avoir fait le tour en quelque sorte de la question et de la manière de changer le monde en quelque sorte, elle ne voit pas d'autre issue que faire le choix des armes, que la société est bloquée, et donc que la révolte passe par une action violente. Donc elle l'écrit, elle le dit aussi au moment des procès. Alors elle va mourir en détention dans des conditions qui sont restées troubles en 1976, puisqu'elle est retrouvée morte dans sa cellule, comme d'autres militants de cette organisation allemande qui seront retrouvés morts dans leur cellule en 1977. Mais en tout cas, elle intellectualise, elle conceptualise son engagement, et la question du sentiment ou de l'effet de groupe en quelque sorte est complètement absent de ce qu'elle explicite, alors qu'elle va être présentée comme certes une figure un peu inspiratrice, une muse en quelque sorte de la fraction Armée Rouge, le cerveau en quelque sorte qui vaudra à cette organisation, d'être la première personne recherchée avec Andreas Bader, et qui sera surnommée d'ailleurs un peu en référence à Bonnie and Clyde ou à la bande à Bono française, la bande à Bader, alors qu'on pourrait plutôt se dire sur le plan des idées, des motivations, que ce serait peut-être plutôt la bande à Ulrike.
Ont également été arrêtés deux autres membres de la bande et Bader lui-même, blessé d'une balle postérieure lors de la fusillade. Depuis son évasion de Berlin-Ouest il y a 2 ans, Andreas Baader défiait toutes les polices de la République fédérale et le gouvernement du chancelier Brandt était sévèrement critiqué par l'opposition pour son apparente mollesse. En compagnie d'Ulrike Meinhof, une ancienne journaliste toujours activement recherchée, le chef du groupe, qui devait d'ailleurs s'appeler bientôt groupe Baader-Meinhof, comptait à son actif une série impressionnante d'attaques de banques et d'attentats à la bombe.
Christian Lebar.
Alors vous nous replongez dans des décennies, dans une société française et une société ouest-allemande qui se caractérise par une domination masculine inscrite dans le monde du travail, la famille, le monde politique, etc. Est-ce que le cadrage, dont on a vu à quel point il était nourri d'un désarroi des journalistes qui ne savaient pas comment traiter ces Amazones de la terreur, est-ce que ce cadrage, dans quelle mesure participe-t-il de cette domination masculine? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, d'une certaine façon, les journalistes cherchent aussi, peut-être parce que ce sont des hommes et pour des raisons qu'on disait tout à l'heure, ils seraient plus volontiers prédisposés à excuser ces femmes que les hommes qui les ont accompagnées ou...
Alors, les journalistes, y compris quand ce sont des femmes, entretiennent ce modèle un peu de dichotomie qui réaffirme une forme d'ordre social sexué dans lequel les femmes sont placées en position un petit peu d'infériorité, notamment au Figaro. François, il n'y a que des hommes qui signent les papiers, sauf Ménie Grégoire, mais ça on pourra y revenir après. Ces journalistes, finalement, ça les rassure de réaffirmer ce modèle, d'un modèle alors qui peut être un modèle de couple ou un modèle en tout cas dans lequel les femmes suivent des hommes, parce que finalement ça permet de reposer, de réaffirmer un ordre social dont l'action, enfin que l'action de ces femmes vient en quelque sorte mettre à mal de manière extrêmement brutale. Et cette réaffirmation, elle se fait toujours indépendamment de ce que les premières intéressées disent. Certaines d'entre elles vont effectivement dire lors de leurs interrogatoires ou au tribunal que effectivement elles ne savaient pas, qu'elles se sont laissées dépasser, qu'elles ont fait confiance, qu'elles étaient amoureuses. Donc ça fait partie des figures qui peuvent être mobilisées,
et
qui peuvent correspondre à la réalité.
Ce discours est recevable.
Ce discours est extrêmement rassurant. C'est d'ailleurs ce que va dire l'avocat d'une des femmes qui va être condamnée pour avoir participé à ce qu'on appelle le groupe des malgré nous, en quelque sorte, d'Action Directe. Donc la journaliste Paula Jacques, Henri Leclerc, donc célèbre pénaliste, va dire à l'audience: vous ne pouvez pas condamner une femme simplement parce qu'elle a aimé. Ce qu'elle a fait était construit par sa méconnaissance, ou en tout cas son aveuglement, ou son illusion.
Paradoxalement, la position dominée des femmes, dans les stéréotypes de l'époque, peut être aussi une bouée de sauvetage sur le mode « avouez que vous n'avez pas été aux manettes sur cette affaire-là ». Et elles demandent ça. Enfin,
certaines d'entre elles.
Et c'est là qu'évidemment le cercle se referme. Il ne reste plus que la monstruosité à ce moment-là.
Effectivement, si elles ne sont pas dans ce modèle d'une femme aveuglée par ses sentiments de l'amoureuse suiveuse dans une position un peu de génitive sociale en quelque sorte, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc
elles sont doublement coupables. Pour le coup.
Donc c'est là effectivement qu'on fait appel à des figures monstrueuses comme l'anecdote que je racontais sur la serviette en cuir, parce que Nathalie Ménigon, elle n'a jamais fait état de ses sentiments pour qui que ce soit, et encore moins pour Jean-Marc Rouillan à l'audience. Ce sont les journalistes, les enquêteurs qui vont mettre l'accent sur cette dimension du couple criminel. Là pour le coup effectivement c'est extrêmement stigmatisant, en particulier pour les femmes qui sont liées à des attentats qui ont fait des victimes.
Fanny Bunion, est-ce que ces femmes se sont revendiquées féministes ?
Certaines d'entre elles, la plus importante étant Ulrike Meinhof, qui d'ailleurs a quitté le journal Concrète dont elle était l'éditorialiste vedette, qui était dirigé par son mari de l'époque, parce qu'elle désapprouve la ligne éditoriale que prend le journal à la fin des années 1960, qui surfe sur ce qu'on va appeler l'érotico-gauchisme, en tout cas qui va mettre en couverture des femmes dévêtues qu'on retrouve classiquement dans la presse érotique qui explose dans cette période, qui va se diffuser. Le film Emmanuel, qui va faire un carton au cinéma, c'est 1974. Donc on est dans une période où le marché de l'érotisme, en tout cas, se popularise à grande échelle. Et elle le dénonce. Elle va d'ailleurs écrire qu'elle rejette et qu'elle condamne cette divergence de la cause émancipatrice ou révolutionnaire dans laquelle ils sont censés s'inscrire. Donc elle pose vraiment son engagement féministe et il est public, il est de notoriété vraiment partagée. D'autres militantes vont avoir moins de surface médiatique en quelque sorte. Certaines d'entre elles, à l'audience, vont refuser de répondre à des questions relatives à leur vie privée, considérant qu'elles sont des révolutionnaires et que le révolutionnaire c'est un terme épicène. Et donc elles refusent de se poser comme femmes ou de faire de la violence quelque chose qui émancipe en particulier les femmes, parce qu'elles y voient peut-être aussi une forme de réassignation hein, à ce modèle. Certaines d'entre elles vont témoigner par la suite, et je pense notamment à Joëlle Aubron qui, avant son décès, a enregistré un témoignage, un militant, un retour sur son parcours militant vidéo, dans lequel elle explique que elle s'identifie comme féministe, qu'il y a une dimension émancipatrice en particulier pour les femmes à se poser comme les égales des hommes à travers un engagement, y compris un engagement violent.
Nous faisons une pause musicale, nous allons écouter Le Poison, chanté par Laura Pérudin.
Vraiment l'automne qui prend fin aujourd'hui. Je voudrais que soudain cette mer s'épanche. Et que de plus loin les méduses nous épient. Crépuscule lentement sans dimanche. Mais l'amour et la haine cheminent dans l'envie.
Comme ton image lointaine, le venin du doute coule dans mes veines. De ton visage ne reste qu'une ombre incertaine. Comme ton
ce poison.
Laura Pérudin, Le Poison à l'instant sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville, émission consacrée à ces femmes qui ont marqué l'histoire parce qu'elles étaient des terroristes et parce qu'elles étaient des femmes terroristes. Les mots pour les désigner ne sont pas les mêmes que pour les hommes. D'après la presse des années 70-80 qui relate les attentats des groupes Action Directe en France et de la fraction Armée Rouge en Allemagne, ces femmes sont jolies, passionnées, des ogresses parfois sous l'influence d'un homme. Mais finalement, est-ce qu'on ne dit pas la même chose des terroristes aujourd'hui quand elles sont mariées à un djihadiste par exemple? Eh bien nous l'évoquerons dans la deuxième partie de cette émission avec Fanny Bunion, maîtresse de conférence en histoire et études sur le genre à l'université Rennes 2, qui répond aux questions de Colette David et Christian Lebar.
Fanny Bunion, vous avez publié Les Amazones de la terreur, les femmes qui se sont engagées dans la lutte armée. Qu'est-ce qu'elles ont changé ou pas dans la manière de militer, de se battre, de défendre ses idées?
Alors ces militantes n'ont pas changé la manière dont on s'engage, n'ont pas changé le répertoire d'action de ces organisations révolutionnaires, n'ont pas inventé de nouvelles techniques ou de nouvelles modalités pratiques. Par contre, elles ont changé le regard. Alors dans les années 70-80, elles apparaissent comme quelque chose de nouveau. Mais on se heurte là à quelque chose d'assez classique quand les femmes s'attaquent à un domaine masculin ou un domaine qui est lié à du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déni d'antériorité. Ça apparaît comme quelque chose de nouveau, sauf que quand on regarde dans un temps
dans
un petit peu plus long dans l'histoire, pour le coup, des figures de femmes criminelles, de femmes violentes, y compris pour des raisons politiques, ça existe. Par contre, il y a peu de travaux sur elles. Et toutes ont été considérées comme des nouvelles entrantes. Et le fait qu'on les désigne comme des Amazones de la terreur, qu'on fasse appel à ce mythe qui est un mythe de guerre des sexes, en quelque sorte de société à l'envers, dans lequel les femmes sont violentes, maîtrisent les armes et s'en prennent aux hommes, qu'elles réduisent en esclavage pour se reproduire, etc., qui sont en premier lieu des guerrières, ça montre bien que cette question des femmes violentes, et en particulier lorsqu'il y a un accès aux armes, c'est quelque chose qui hante, qui inquiète les imaginaires oui. culturels depuis plusieurs siècles.
Christian Lebar.
Oui, alors ce terrorisme, on le disait tout à l'heure, il intervient dans un contexte qui est aussi celui du féminisme, des luttes féministes, et par une sorte de branchement très 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 passionnant, très fascinant. On peut aussi dire que d'une certaine façon, au moment où les femmes accèdent à l'université de façon plus massive, où les professions se féminisent les unes après les autres, et puis bon. Très marginalement, très monstrueusement, mais aussi significativement, ce métier d'homme par excellence, métier entre guillemets évidemment, qui est le métier de terroriste, se féminise à la faveur des cas sur lesquels vous revenez. Et du coup, ce qui est très passionnant dans le livre, c'est qu'on voit bien que les adversaires, il n'en manque pas à cette époque-là déjà, du féminisme, vont en quelque sorte s'adosser à ce procès pour dénoncer le féminisme en disant voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus?
Effectivement, ces militantes, elles vont être utilisées comme un prétexte pour celles et ceux que la question de l'émancipation et de l'égalité entre les sexes, qui connaît une réactivation avec ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague dans les années 70, va inquiéter, et bien pour effectivement faire part de leurs inquiétudes et être utilisées comme une démonstration de ce qu'ils et elles réprouvent, sur lequel ils se sont prononcés, donc une espèce d'égalité qui va trop loin, d'égalité dans le crime, dans l'horreur, avec l'idée donc qu'on est en train de brouiller les genres, de brouiller les identités féminines et masculines, et que ces femmes présentes dans le box des accusés, eh bien, sont la traduction ultime d'une forme de fuite en avant qu'incarnerait le féminisme au nom d'une revendication égalitaire excessive. C'est les termes qui vont être utilisés, y compris par des psychiatres, hein, pour les qualifier. Alors, il y a la question de la mauvaise mère ou des femmes qui renoncent à la maternité. On ne parle jamais de la paternité des hommes. Certains sont pères, mais on n'en parle jamais, pourtant parmi ces accusés. Il y a la question de femmes qui se posent en égale dans leurs attitudes. Alors, parfois, elles sont séductrices, parfois, elles sont considérées comme un peu viriles. Mais la question de l'accès aux armes, par exemple, a été présentée au moment du féminisme de la Belle Époque comme une revendication viriliste avec un risque de viriliser les femmes. Donc il y a cette espèce de panique morale qui se cristallise sur ces figures-là, mais qui touche plus largement voilà, aux revendications égalitaires, notamment autour des questions de corps, de sexualité, d'autonomie des femmes dans ces années 1970. Donc c'est le prétexte et ça met en scène du coup des inquiétudes beaucoup plus vastes.
Opération antiterroriste ce matin à Vaux-en-Velin dans le secteur du Mas du Taureau. Les policiers de la DGSI ont interpellé deux jeunes femmes âgées de 29 et 37 ans. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé la fuite d'un détenu de droit commun à l'occasion d'une permission de sortie pour qu'il puisse partir faire le djihad en Syrie.
Aujourd'hui, quand on pense femmes terroristes, on pense peut-être d'abord aux femmes de Daesh qui s'engagent auprès de Daesh. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la manière de parler d'elle a évolué par rapport à il y a 30 ou 40 ans ?
Alors moi, je travaille donc sur le passé, mais effectivement, je vis dans le monde contemporain.
Et vous continuez à lire les journaux, j'imagine ?
Et je continue à lire les journaux. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que le traitement médiatique des femmes qui sont engagées dans ce qui relève de formes de violence politique ou en tout cas d'engagement radical au sens où, avec un renversement du monde tel qu'il est, eh bien elles continuent à être traitées avec les mêmes registres, la relativisation sentimentale ou la mise en dépendance à l'égard d'un homme ou en tout cas de femmes sous influence en quelque sorte. Hein. Le film de John Cassavetes n'a pas d'équivalent masculin. On ne parle pas d'hommes sous influence, ce sont les femmes qui sont sous influence. On peut aussi mettre en scène, avec une dimension un peu érotique ou de séductrice, à la fois des femmes de cause qui apparaissent dans les médias occidentaux comme réactionnaires, conservatrices comme Daesh, ou progressistes révolutionnaires comme les militantes kurdes, oui, notamment, qui elles vont être mises en scène comme des figures plutôt positives, tout en étant érotisées avec des attributs de féminité visibles, classiques, et qui résonnent avec des imaginaires dans la culture populaire à la Lara Croft ou ce genre de personnages. Donc moi, je n'ai pas l'impression que à l'heure où les femmes sont devenues les égales des hommes sur le plan du droit, que du point de vue des représentations culturelles, politiques, qu'on soit sur quelque chose de neutre ou d'égalitaire, mais au contraire, on rejoue les mêmes registres selon qu'on soutient, qu'on approuve ou qu'on désapprouve ces formes d'engagement. Ça continue à passer pour, oui, une espèce d'énigme sociale.
Un prolongement possible serait, par exemple, de travailler sur le traitement médiatique des enfants terroristes. Mm-hmm. Hein, parce que là, on retrouverait exactement le même scandale, la même incapacité à trouver les mots justes pour rendre compte de ces situations et le même balancement entre criminalité scandaleuse d'un côté et innocence présumée de l'autre, et avec la même incapacité à faire tenir les deux, je pense.
C'est vrai, et ça serait intéressant de regarder dans ce cas-là ce qui se joue aussi du côté des garçons, de la construction de la masculinité chez les petits garçons à qui on fait jouer pourtant à la guerre et aux petits soldats, ou que se passera-t-il si ces enfants soldats ou si ces enfants qui participent à des actes de guerre étaient des petites filles ?
Quel rapport vous avez avec ces femmes ? Personnellement, vous avez travaillé sur ces sujets pendant des années.
Mmh. Alors, certaines d'entre elles sont décédées. D'autres sont toujours en vie. Alors là, du point de vue un peu méthodologique, on se heurte quand on travaille sur ces questions-là à une série de difficultés. Les archives de justice ne sont pas accessibles, elles ne sont pas déclassées, il n'y a pas de dérogation pour pouvoir les consulter. Un certain nombre de personnes qui ont été condamnées ont interdiction de s'exprimer, quel que soit le cadre, sur les faits pour lesquels elles ont été condamnées. Et certains se sont essayés à le faire et ça leur a valu effectivement une...
C'était les dons.
Comme par exemple, voilà, Jean-Marc Rouillon, qui, merci, a été réincarcéré après s'être exprimé dans la presse, oui, sur les faits pour lesquels il a été condamné, quel que soit le registre. Joëlle Aubron s'était exprimée après sa libération pour des raisons de santé, puisqu'elle est décédée un an après sa libération, puisqu'elle était très malade. Et elle avait donné notamment un long entretien à Libération, dans lequel elle se posait la question, on a posé la question de est-ce que vous regrettez ou pas qu'est-ce que vous en pensez ? Et elle disait, je ne peux pas vraiment vous parler, je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit là-dessus, parce que je m'expose à une suspension de ma suspension de peine, en quelque sorte. Donc il y a une impossibilité en France qui est faite pour un certain nombre d'entre eux à s'exprimer. Certains ont changé d'identité, ne souhaitent pas revenir sur ces faits-là. Et puis, parce que des faits aussi ne sont pas nécessairement prescrits, tout n'a pas été mis au clair, mis à jour. Il y a des zones d'ombre qui demeurent encore. Aujourd'hui, donc sur un plan méthodologique, c'est compliqué. Par contre, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines, mais officiellement, je n'ai pas le droit de donner leur nom. Je n'ai pas le droit de dire avec qui j'ai pu m'entretenir, parce que je les expose. Donc ça, c'est le principe de la confiance avec les personnes avec qui on s'entretient, pour ne pas les mettre en difficulté. Donc moi, je m'intéresse plus largement à ces questions de femmes dissonantes, de femmes déviantes.
Il y a un rapport de quoi ? Il y a un rapport de séduction, de fascination, de pendant tous ces mois, toutes ces années d'études.
Alors, moi, la violence, c'est pas quelque chose qui me fascine. Je ne pense pas être en proie au romantisme révolutionnaire ou à la condamnation morale de la chose. Moi, c'est un objet qui m'intéresse. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines, notamment en détention, à la faveur d'autres travaux, et j'avais été frappée par la différence de perception a priori de ce que ces femmes pouvaient dégager par rapport aux autres femmes qui se trouvaient en détention, de femmes qui étaient habitées par quelque chose malgré des années de prison et qui n'étaient pas dans le même état de décrépitude ou de séquelles de l'incarcération, y compris après 15 ans de prison.
Oui, alors, puisqu'il y a une dimension de médiatisation dans le travail, les femmes dont nous avons parlé, d'une certaine façon, sont devenues un peu des icônes, des vedettes, des stars. Je ne sais pas quel terme utiliser. Ceux que j'ai utilisés ne sont pas les bons, mais tout le monde aura compris. En tout cas, ce sont des noms dont nous avons gardé la trace, la mémoire. Est-ce que vous avez, je sais que la réponse est oui, travaillé sur des femmes, je dirais, qui sont aussi peut-être davantage dominées dans ce champ, j'ose pas le dire comme ça, mais dans l'univers, dans la mouvance terroriste, ou d'engagement extrême, et des femmes qui, occupant des positions beaucoup plus modestes, n'ayant pas fait la une des journaux, ont été condamnées de façon plus banale, moins médiatique, et pour qui, alors là, peut-être le modèle de la domination masculine s'appliquerait sous la forme d'une sanction
Celles qui ont fait la une des journaux, c'est celles qui ont tué en premier lieu, et aussi celles qui ont incarné des figures de repenti. Je mets des guillemets repenti parce que c'est pas une catégorie dans le droit français, à différence par exemple de ce qui a existé en Italie.
Celles qui ont été sauvées, alors.
Celles qui ont été sauvées, alors elles ont pu être mises en scène un peu comme Patty Hearst, en quelque sorte, aux États-Unis, sur le mode de la rédemption, d'une femme qui va dire « je me suis trompée et je vous explique ce qui s'est passé, je vous donne les noms, je vous donne les éléments et je me retire en quelque sorte de cette arène dans laquelle je me suis peut-être retrouvée malgré moi ou pas. »
Et la société retombe sur ses pattes, là.
Et là, tout va bien. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est l'image de Patty Hearst, qui est enlevée par l'armée symbionnaise de libération aux États-Unis, qui est la fille du mania de la presse, et puis qui va participer à des hold-up. On a ces images d'elle qui fait des braquages de banque avec une mitraillette. On a les enregistrements sonores des messages audio qu'elle va adresser à ses parents aux médias, que par exemple Lola Lafon traite dans son dernier roman. Là, finalement, c'est rassurant. On va mettre en scène, et dans le cas de Patty Hearst, elle va ensuite à la fin des années 70, être publiée dans Paris Match à la maternité avec son enfant. Elle a épousé un ancien camarade de classe et finalement, happy end, tout va bien.
Mais elle n'a pas tué.
Patty Hearst n'a pas tué.
Et elle a été enlevée dans un premier temps.
Et elle a été enlevée dans un premier temps. Donc, celles qui sont connues, en fait, ce sont les figures les plus transgressives. Ouais. Mais si je vous dis Anis Benoît ou Frédéric Germain, c'est peut-être des noms qui vont rien vous dire, parce qu'elles, pour le coup, elles ont fait partie de ce qu'on a appelé la mouvance Action Directe. Elles ont été condamnées pour avoir participé aux activités de cette organisation. Mais elles n'ont pas eu de destin médiatique. Elles ne sont pas apparues comme des icônes. Ou en tout cas, aujourd'hui, on les a complètement oubliées, alors qu'elles ont fait partie de cette organisation, mais elles n'ont pas tué, elles n'ont pas été condamnées pour en tout cas avoir participé à des crimes de sang. Et en Allemagne, certaines d'entre elles aussi sont très connues, notamment pour avoir assassiné, toujours à visage découvert. C'est ça aussi qui interpelle, c'est qu'on peut tout de suite les identifier, et elles visent parfois des personnalités du monde économique ou du monde politique qu'elles peuvent connaître par ailleurs. L'une d'entre elles va assassiner son parrain, va participer en tout cas à l'assassinat de son propre parrain. Donc on est sur quelque chose là qui forcément est médiatiquement très efficace.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort.
Ça vous a plu?
Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de...
Bonnie et Clyde.
Ça va pas?
Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est...
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang.
Barrow.
Leur nom.
Bonnie Parker et James Barrow.
Non, Clyde, pas du tout.
Oh! Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, je chante pas bien.
Mais si.
Mais non.
Sur cette notion d'engagement, vous avez aussi publié très récemment, en compagnie de Ludivine Bantini et Fanny Gallo, ce livre Prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes, un très beau titre, slogan du MLF, c'est
absolument.
Ça, Mouvement de Libération des Femmes dans les années 70. Et donc, le genre de l'engagement dans les années 1968-1970. Dites-nous un peu plus sur ce...
Alors avec Fanny Gallo et Ludivine Bantini, qui sont deux collègues historiennes, on avait des points communs effectivement autour de ces formes d'engagement. Fanny Gallo travaille sur l'histoire ouvrière, Ludivine Bantini sur l'engagement, la jeunesse, et donc on avait ce point commun du prisme du genre pour lire l'engagement dans ces années 68. Et on a organisé à l'université de Rouen un colloque sur genre et engagement dans les années 68. Qui a été un moment vraiment important, et ce livre est tiré de ce colloque, hein. Il est publié aux presses universitaires de Rennes cette année. L'idée, c'est d'interroger au prisme du genre ce qui se joue du côté de l'engagement. Alors, il y a une diversité d'espaces d'engagement, hein. Ça peut être des engagements clandestins, illégaux, ça peut être des engagements artistiques, des engagements politiques ordinaires, j'ai envie de dire, en tout cas dans ce bout
dans les syndicats, dans des associations culturelles, etc.
Au théâtre, au cinéma, enfin en tout cas, qu'est-ce qui se joue dans le bouillonnement contestataire des années 68 en France, dans d'autres pays d'Europe et aussi dans le monde, hein, on a une perspective internationale aussi, ce qui se passe par exemple dans des dictatures, on a notamment des papiers sur ce qui se passe au Brésil et dans les pays, les dictatures du cône sud, la question qui est posée aussi à travers ce slogan du mouvement de libération des femmes, prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes, le privé et politique, en quelque sorte, eh bien comment cette question de la subversion, de l'égalité, de transformation sociale, du point de vue des rapports sociaux de sexe, se joue à l'intérieur même des espaces militants dans ces années 68, qui parfois a pu être quelque chose de complètement mis de côté, mais en tout cas elles interpellent autour de cette idée de politisation de la sphère privée.
Oui, si on revient à 68, effectivement, il y a évidemment la dimension du féminisme, les revendications d'égalité hommes-femmes. Et alors justement, est-ce que le rapport à la violence n'est pas un des ressorts de la domination masculine dans ce contexte-là ? C'est-à-dire l'image qu'on a, mais c'est peut-être un stéréotype infondé, c'est que un certain machisme, ou un certain masculinisme autour du courage, de le fait de ne pas avoir peur d'utiliser la violence, le fait de ne pas avoir peur de l'affronter aussi. Et est-ce que ça n'a pas participé aussi d'une domination masculine dans ce contexte?
Le modèle du militant intrépide, courageux, dévoué à une cause, c'est souvent un modèle qui est pensé de manière faussement neutre et plutôt
masculine.
Plutôt masculin. Effectivement, donc ce bouillonnement en isme, alors féminisme, écologisme, tiers-mondisme, anti-impérialisme... J'en oublie, mais en tout cas qui dessine ce spectre militant des années 68, il est mixte. C'est-à-dire qu'il brasse des femmes et des hommes. Mixte, ça ne veut pas dire égalitaire, ce sont deux choses différentes, mais en tout cas il y a des femmes et des hommes qui cohabitent dans ces espaces militants, qui même d'ailleurs parfois au regard de des formes de classiques de la domination masculine qui s'y jouent, vont faire le choix de la non-mixité. Et c'est effectivement une dimension politique très forte du féminisme de la seconde vague, de poser la non-mixité, c'est-à-dire de femmes qui choisissent de militer, s'organiser entre femmes pour sortir en quelque sorte des formes classiques de la domination masculine. Un groupe révolutionnaire armé allemand a aussi fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'au sein d'une autre organisation donc, concomitante de la fraction armée rouge qui s'appelle les cellules révolutionnaires, les RZ pour reprendre leurs initiales, eh bien, un groupe de femmes va se dissocier de ce groupe des cellules révolutionnaires pour fonder une cellule féminine qui va garder les mêmes initiales, RZ, mais s'appeler Rotozora, et qui dans leur texte de revendication politique, d'attentat ou d'organisation, pose justement cette question de la domination masculine et du féminisme et s'organise en tant que femme pour lutter à la fois contre l'impérialisme, le capitalisme, c'est leur créneau, hein, l'anti-impérialisme, et aussi dans une perspective féministe pour échapper aux formes ordinaires de la domination masculine à laquelle n'échappent pas les espaces militants mixtes. Certains de ces espaces militants vont y être sensibles et vont se... parfois se remettre en cause, notamment à la faveur aussi d'interpellations de ce qu'on appelle les minorités sexuelles, donc par exemple l'émergence des questions homosexuelles dans les mouvements d'extrême gauche, et puis d'autres vont y être complètement aveugles, et ça va susciter toute une série de tensions. On connaît par exemple la genèse de la fin de la gauche prolétarienne par exemple, ou d'autres organisations dites maoïstes, pour lesquelles ces fameux Mao Spontex, eh bien l'invisibilité l'aveuglement aux inégalités de genre et à la domination masculine en interne va précipiter leur chute.
Vous nous dites, avant la fin de cette émission, vous nous dites, Fanny Mugnon, très rapidement, vos axes de travail, et je crois que vous êtes sur la préparation d'une expo qui viendra... Dites-nous ça, Arène.
Alors, je continue à travailler sur des formes d'engagement en marge de la légalité. Je continue à travailler sur les femmes qui ont été élues avant d'en avoir le droit en 1944, et notamment en Bretagne, avec la fameuse Joséphine Pencalette à Douarnenez en 1925, élue conseillère municipale et qui siège jusqu'à ce que le Conseil d'État n'invalide définitivement cette élection.
Dans une mairie qui était
communiste. Et elle est élue par des hommes, sur une liste où il n'y a que des hommes, et elle est élue parce que le secrétariat féminin de Moscou a donné pour consigne au Parti communiste de présenter des femmes à toutes les élections dans une perspective de renversement de l'ordre social, etc. Enfin, tel que le...
Donc vous travaillez...
les communistes là-dessus, donc je m'intéresse à ça. Je m'intéresse aussi plus largement aux imaginaires sociaux autour du crime, de la justice et des régulations de la déviance. Et j'ai été commissaire de l'exposition Présumé coupable, Présumé EES, qui s'est tenue l'année dernière aux Archives nationales, qui a accueilli 60 000 visiteurs et qu'on espère réussir à faire venir à Rennes en 2019. Donc voilà, je continue donc à brasser à la fois la perspective du genre et celle de la déviance en quelque sorte.
Eh bien, on vous remercie, on suivra avec intérêt vos travaux. Je rappelle que vous avez publié Les Amazones de la Terreur chez Payot et qui coûte 21 €. Et plus récemment, Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes avec Ludivine Bantini et Fanny Gallo. C'est aux presses universitaires de Rennes et ça coûte 20 €. Je remercie Christian Lebar et notre réalisateur Ronan Lemouer et je vous donne rendez-vous en février pour la prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.